Time Time Sport.
Le problème, c'est qu'on crache pas sur les gens.
Résultats, infos, analyse.
Et encore moins.
Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman.
Sur Zinedine Zidane, Wold El Haram.
Sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité, en ce début de week-end, vendredi soir, 25 mars 2022. Et justement, ce soir, on parlera de quoi ? C'est une émission Time Sport spécial barrage de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera, on le rappelle, du côté du Qatar. Allez, on va revenir sur la rencontre entre la RDC et le Maroc. Et oui, les Lions de l'Atlas, justement, sans oublier le Cameroun, Algérie, mais aussi le Mali versus Tunisie. Et on reviendra, ça c'est promis, sur le vieux continent européen, sur le fiasco italien. On n'a rien compris. La Macédoine, en tout cas, a bien bouffé les Italiens hier soir et personne, la planète football, n'a rien compris à la rencontre d'hier soir pour encore une fois, la seconde fois. Bon, quand je compare à 2018, l'Italie ne participera pas donc à une phase finale de la Coupe du Monde. N'oubliez pas, le numéro du standard, c'est le 01 53 48 3000. Et aussi, on aura le JT Sport ce vendredi soir de Diazone. Allez, il nous a été finement préparé par notre rédacteur, mais non, pour le moment, on va essayer de l'avoir au cours de l'émission. En tout cas, vous n'oubliez pas, vous pouvez réagir sur toute la durée de l'émission avec nous, avec l'équipe de Time Sport, en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, on va partir et on va découvrir cette émission avec toute l'équipe de Time Sport et vous, chers auditeurs. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Allez, avant le premier sujet, on accueille dans cette émission Alison, notre consultante. Bonsoir Alison. Comment ça va?
Ça va
très très bien.
Ça aurait pu être mieux, mais ça va.
Ouais. Ah oui, Alison, je sais pas. Il y en a qui me parlent de 11 minutes d'arrêt de jeu. Il y en a qui me parlent du match de cet après-midi à 16h entre, la RDC et le Maroc. On va revenir sur tous les matchs, ça c'est promis. Pour le plus grand plaisir de ces amoureux du football. On sera aussi avec Kamel, mais sans oublier notre consultant, qui n'est autre que Mickaël. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Ça va bien ?
Ouais, je suis content d'être là ce soir dans cette émission.
Ah ben nous aussi Mickaël, on le rappelle, vous voulez réagir justement sur les matchs de cet après-midi et en ce début de soirée, notamment le match de l'Algérie, du Maroc ou encore de la Tunisie. On viendra aussi sur le match des Égyptiens ce soir. Vous composez le numéro du standard. Giovanni, à la réalisation ce soir, se fera un plaisir de vous décrocher et vous faire passer à l'antenne. Le 01 53 48 3000, voilà pour le numéro du standard, cher auditeur. Allez, on s'attarde justement sur les matchs. La RDC face au Maroc, un but partout. Eh oui, Alison, ils auraient pu mieux faire, peut-être.
Ils auraient pu beaucoup.
Mais le Maroc est là, il est présent.
Exactement. La RDC aurait pu beaucoup mieux faire. La RDC et les Léopards ont dominé de la tête et des épaules.
C'est ça, les Léopards.
Ce match, jusqu'à à peu près à la 70e minute, où ils ont baissé le pied. Et il y a eu ce but encaissé. Mais en tout cas, la RDC s'est montrée solide. La RDC de Cooper s'est montrée solide. Que ce soit défensivement, en tout cas, Louis Ndama, et Mbembe. La charnière centrale a bien tenu son rôle, effectivement, jusqu'à l'erreur de placement sur la contre-attaque fulgurante des Tunisiens. Mais surprise et dans le bon sens du terme, même si effectivement techniquement ça reste un peu fébrile et juste. Mais c'est le match aller d'une et dans l'intensité physique, la RDC a rendu s'est montrée présente parce qu'ils ont bougé ces Marocains. Et de l'autre côté, j'ai pas reconnu cette équipe du Maroc. J'ai pas reconnu l'équipe du Maroc qui avait fait cette grosse phase de poule pendant la CAN. C'est une équipe qui a la deuxième équipe, je crois, qui a tiré le plus au but, la deuxième équipe qui s'est montrée le plus dangereuse. Et là, on avait une équipe totalement soporifique. On avait une équipe totalement endormie.
Le Maroc a eu peur, on le dit. Certains disaient que
qui a entraîné la RDC dans un faux rythme. Ça trottinait, ça jouait pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas un bon résultat pour la RDC, mais ça laisse entrevoir toutes les chances d'une éventuelle qualification à Casablanca mardi.
Ah oui. Alors justement avec toi, Mickaël. Bah, allez, on poursuit.
Alison a bien résumé le tout. Ouais. Moi, j'ai également été très déçu par le niveau affiché par le Maroc durant ce match.
Oui.
Le Congo, sans être la RDC, sans être vraiment extraordinaire, a tenu son match, aurait pu même mener 2-0 sans se louper de Bakambu. Il y a eu ce but en contre-attaque du Maroc sur une grosse occasion juste avant pour la RDC.
Oui.
Donc je pense que oui, de ce côté-là, il va y avoir des regrets. Ce qui est dommage, c'est que contrairement à la Ligue des Champions, le but à l'extérieur compte pour ces barrages. Donc c'est un avantage pour le Maroc, mais il reste encore un match retour et les cartes sont encore sur la table, que ce soit pour la RDC ou pour le Maroc.
Ouais, libéré par Wissa justement.
Libéré par Wissa qui a fait un gros match. On l'a vu sur tous les fronts, que ce soit en récupérateur, que ce soit offensivement.
On est
pour moi, ça a été clairement le meilleur joueur de cette rencontre. Et à contrario, ce qui m'a déçu, c'est Bakambu.
Ouais.
Bakambu, son
occasion, tu sens que. Il est seul au second poteau, tu sens que il lui manque de la hargne pour entrer dedans, pour la mettre au fond, et j'ai été aussi déçu par son niveau
Carrément, toi tu as été déçu par lui.
Il a signé du côté de l'Olympique de Marseille cet hiver.
Marseillais.
Il avait fait des bons débuts, mais en plus c'était assez compliqué parce que lui ça faisait quasiment 4 mois qu'il avait pas joué après sa rupture de contrat avec son club chinois. Il revient à l'OM, il joue son premier match, il marque. Derrière, c'est un peu plus compliqué pour lui physiquement. Là, il remarque dans l'équipe de Sampaoli. Et je m'attendais à un tout autre Cédric Bakambu ce soir, plus virevoltant avec plus d'appels. Je l'ai senti un peu en dedans, moi, personnellement.
Et justement, ouais. Mickaël a Alors, signé, c'est qu'il a signé à Marseille pour ça. C'est-à-dire que pour revenir en équipe nationale, parce que je le rappelle, il n'était plus titulaire au sein de la RDC, il est revenu à Marseille pour pouvoir regagner du temps de jeu, pour pouvoir aussi revenir en Europe, c'est-à-dire qu'on le voit avoir un plus beau rayonnement, si je ne m'abuse, mais pour nous rendre des prestations comme ça. On sait que Bakambu, c'est un joueur qui n'est pas un tueur devant le but.
C'est-à-dire
qu'il lui faut beaucoup d'occasions pour la mettre au fond. Mais là, particulièrement, est-ce que quelqu'un peut lui apprendre la règle du hors-jeu à Bakambu? Comment ça se passe?
Terrible.
Il est tout temps hors jeu, le mec. Tout le temps, sur tous ses appels, sur toutes les occasions,
j'ai l'impression qu'il sent pas le jeu.
Exactement,
en fait.
Il a toujours deux pas d'avance sur le dernier défenseur. C'est abusé.
Après, je me demande
que même en amateur, chez les moins de 10, on connaît mieux la règle du hors-jeu que Bakambu.
Je sais pas si c'est pas un problème physique.
Allison, alors Mickaël.
Je sais pas si c'est pas un problème physique.
Ah oui, carrément.
Parce que c'est un joueur qui. Déjà qui a vraiment performé en Europe, notamment du côté de l'Espagne, du côté de Villarreal, c'est un super joueur, mais qui a techniquement qui est pas un mauvais joueur, mais qui a beaucoup d'aptitudes physiques dans la multiplication de ses appels, dans ce qu'il est capable de faire sur le front de l'attaque. Et là, j'ai vraiment l'impression que il a vraiment à chaque fois un ou deux temps de retard en fait. Et je me demande si ce qu'on disait beaucoup, c'est un bon joueur, il s'est entretenu pendant les 4 mois où il a pas joué, mais en étant footballeur professionnel, je pense que tous les entraîneurs le disent, rien ne remplace le terrain, et je pense que le fait d'avoir eu une aussi grosse trêve sans pouvoir enchaîner le match, sans pouvoir jouer, aujourd'hui ça pèse clairement sur les performances de Cédric Bakambu.
Et ben dans ce cas-là, c'est avec le sélectionneur que j'ai encore un problème avec Michel Cooper.
Et pourquoi donc?
Avec le monsieur argentin qui dans ce cas-là ne devrait pas titulariser Bakambu. Si tu sais que ton joueur
rentrer dans la 30 minutes de la fin.
Exactement, tu le titularises pas, tu le fais rentrer à 30 minutes de la fin, quand le Maroc se fatigue un petit peu, surtout dans un match comme ça, il y a de quoi jouer justement épuisé et tuer le match. Et c'est là que j'ai un problème avec Cooper. Je pense que il a fait ses preuves, il est arrivé en finale avec l'Égypte, il a été finaliste. Finalement, son palmarès c'est d'être finaliste de quelque chose mais jamais remporté quelque chose. Moi, j'ai un problème de toute façon avec ce sélectionneur parce que je trouve qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon dans ses choix, il n'est pas bon dans ce qu'il crée dans cette équipe, j'aime pas. Tout simplement, je suis pas fan, je comprends pas ce changement d'Ibengué pour Cooper. Alors oui, je comprends qu'on ait viré Ibengué parce que jusque là, ce qu'il proposait et ne pas se qualifier à la CAN, c'est quand même gros. Pour une équipe comme la RDC, historiquement, on sait que c'est une nation du football. Mais de là à prendre Cooper, je pense qu'il y a quand même un peu mieux dans le choix d'un sélectionneur pour la RDC qui ambitionne de se qualifier pour une Coupe du Monde.
C'est ça. L'homme fort peut-être, c'est le portier marocain, Bounou. Ouais, on le rappelle, Alisson. On en avait déjà parlé lors de cette Coupe d'Afrique.
Exactement, ce jeune portier marocain qui n'a pas eu finalement tant de travail à faire, mais qui l'a bien fait justement sur une tête à bout portant, à croiser de Cédric Bakambu. Il sort l'arrêt qu'il faut. Au bon moment, parce que là, je pense qu'un 2-0 serait coupé les jambes du Maroc. Donc il a fait une prestation, il a fait une très belle prestation avec Hakimi. Je pense qu'ils ont été les deux meilleurs joueurs.
Hakimi qui ne déçoit jamais. Avec le Maroc là-dessus.
Exactement, qui est un peu plus en difficulté du côté du Paris Saint-Germain, mais qui fournit une belle prestation encore ce soir avec le Maroc.
Alors Michael, ouais, d'accord avec cela.
Oui, ouais. Mais après pour conclure, moi, comme je le disais au début, je pense que la RDC peut s'en mordre les doigts, parce que mine de rien...
Pas terminé, on le rappelle.
Oui, mais je veux dire, sur ce match aller, il y avait moyen, je pense, de prendre une bien meilleure option, vu le niveau vraiment affiché par le Maroc qui a eu un niveau assez cataclysmique sur ce match. Après, je me demande si la CAN qui s'est terminée il y a un mois et demi maintenant, est-ce que ça pèse pas d'enchaîner directement sur des matchs aussi importants sur les barrages. Après, ce sont des footballeurs professionnels qui ont l'habitude de ces grosses compétitions. Mais on va en reparler, mais que ce soit pour Mali Tunisie ou Cameroun Algérie, j'ai globalement été déçu du niveau affiché par ces équipes durant ces barrages, et c'est assez dommageable parce que aujourd'hui c'est les dix équipes africaines qui prétendent à une place dans la prochaine édition de la Coupe du Monde.
Oui.
Et je m'attendais en tout cas pour la phase aller à quelque chose d'un peu plus flamboyant personnellement. Après, comme tu l'as très justement dit, reste un match retour.
Bien sûr.
Mais je me demande si la CAN qui s'est terminée il y a quand même très peu de temps joue pas sur les organismes de ces équipes-là ou sur
des joueurs assez fatigués aussi. Ouais, on en parle à chaque fois cette partie de l'année, à cette période plutôt.
Et en plus, à leur décharge, il faut savoir que là, en RDC, à Kinshasa, il faisait 34 degrés.
Wow.
C'est pareil, bien sûr, au Cameroun aussi, ils faisaient aux alentours de 33 ressentis.
Pour des joueurs qui jouent quand même globalement,
donc pour des joueurs qui jouent en Europe, ça tire énormément sur l'organisme. Après, oui, on peut se dire que ce n'est pas une excuse, etc. Mais là, à cette période-là de l'année, en ayant enchaîné le championnat et précédemment la CAN, là, pour le coup, on peut leur trouver cette excuse.
Les Lions de l'Atlas, justement, ces Marocains, peut-être en danger avec ce match nul ou une option. On en pense quoi pour le match retour, Alisson? Michael,
je pense qu'il y a quand même une bonne option. Hein. Là, il y a encore la règle du but à l'extérieur. Qui compte, parce que dans la zone
affectée,
on n'a pas supprimé encore cette règle. Ça reste un résultat favorable pour le Maroc. Hein, aller marquer un but, donc ce qui fait une avance d'un but et demi, quasiment deux buts à domicile, donc à Casablanca mardi prochain, c'est pas négligeable.
Michael, avant de partir sur l'Algérie et aussi la Tunisie.
Après, on sait, un match aller, personnellement, je suis un peu le Paris Saint-Germain, donc on sait très bien qu'un match aller ne ressemble pas vraiment à un match retour.
Ouais.
Maintenant, moi, vu ce qu'a montré le visage
qu'a
affiché, oui, c'est clair, mais je parle en général.
Vrai. Ouais,
mais vu le visage affiché par les Marocains, moi, je verrais bien la RDC faire un coup.
La RDC faire un coup.
Un coup au match retour.
Chez les Marocains, aïe. Ouais, Michael, on verra bien. On verra bien, ça va arriver à grands pas d'ici la semaine prochaine, prochaine.
Pareil, je vois bien le 2-2 du match qui qualifie.
Le 2-2 et ça qualifierait. Oui, c'est vrai. Les Léopards, comme le disait si bien Alison, notre consultante, si vous voulez réagir avec toute l'équipe de Tam Sport sur l'antenne de Beurre FM, on rappelle le numéro du standard, passer peut-être une petite dédicace, mais aussi concernant le match, que ça soit la RDC, mais aussi la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, vous pouvez nous contacter. Nous allons marquer d'une courte pause avant de revenir, c'est promis, sur l'Algérie. On va parler aussi des Aigles de Carthage avec les Tunisiens, sans oublier aussi les matchs de ce soir. Allez, il y aura aussi quand même la Côte d'Ivoire qui se déplace du côté de la cité phocéenne à Marseille, qui rencontreront les hommes de Didier Deschamps. On l'a parfois un peu oublié ce soir, mais c'est vrai que la France joue ce soir face à la Côte d'Ivoire. On verra en tout cas, peut-être un retour probable de Dimitri Payet, c'est ce que laissait sous-entendre le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et voilà, de retour à la fond la caisse sur l'antenne de Beurre FM. L'émission allait jusqu'à 21h. C'est Time Sport, justement. On parle de football ce soir avec les éliminatoires de cette phase finale de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et oui, en cette fin d'année 2022, on aura droit à cette fameuse Coupe du Monde de football. Allez, l'Algérie qui prend, vraiment, elle prend, allez, on va dire une fameuse option, mais vraiment un billet peut-être, et se rapproche de plus en plus du Qatar.
Time Sport, la troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
One, two, three, vive l'Algérie. One, two, three, vive l'Algérie.
Eh oui, voilà. Et je sais pas, et s'ambiance, en tout cas, le réalisateur, hein, Giovanni avec Mickaël. Ouais, c'est bien ça, c'est ça, Giovanni. On est avec Alison, on rappelle le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, le 01 53 48 3000. Et donc, l'Algérie qui remporte le match aller face au Cameroun, 1-0. Et elle se rapproche, cette sélection algérienne de Djamel Belmadi, qui l'a redessinée, en tout cas, pour ces deux matchs, aller et retour. Du Qatar. Eh oui, Alison, hein, justement, ça se passe pour les Algériens. En tout cas, ce soir, l'Algérie est contente ce soir.
L'Algérie est contente et Belmadi s'est offert un beau cadeau d'anniversaire. Parce que
c'était son anniversaire
au sélectionneur. C'était l'anniversaire du sélectionneur aujourd'hui.
Algérien.
Et donc, il s'est offert en petit cadeau le Cameroun. En tout cas, on a vu un nouveau plan de jeu qui s'est mis en place avec ses défenses à trois qui a plutôt très bien fonctionné. On a renforcé un petit peu le milieu pour contenir cette équipe camerounaise. Les assauts de cette équipe camerounaise. Et finalement, on n'a pas vu une Algérie très flamboyante, mais on a vu des Fenech très solides.
Ouais.
Que ce soit défensivement, dans les attaques placées, groupées. Au début, on a vu un petit peu Choupo-Moting faire deux trois heures et au fur et à mesure du match il s'est éteint et c'est le cas de Belmadi. Il a éteint au fur et à mesure du match ses joueurs camerounais. Je l'ai dit, on n'a pas vu une Algérie solide, on n'a pas vu Riyad Mahrez, on n'a pas vu de nombreux joueurs, si ce n'est Slimani, qui a fourni un gros match de la première à sa sortie.
Il a un excellent jeu de tête,
Slimani, pour mouiller le maillot.
C'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur aussi, de manière générale, Islam Slimani.
Justement. On a Saïd qui nous écoute ce soir. On a un auditeur, Saïd, un féru de sport, justement. Et il nous dit, a-t-on des nouvelles de Vincent Aboubakar, Michael? Eh oui, Alison.
Il aura fait mal au début, quand même. Il a chambré, mais au début, il aura fait mal. Et après, effectivement, au fur et à mesure du match, il s'est éteint, à l'instar de Choupo-Moting. Mais au début, il faut reconnaître qu'il aura fait mal avec les petits passements de jambes, les insertions dans la surface de réparation. Il faut reconnaître, quand même.
Alison, il aura fait mal, bien sûr. Alison, on est là pour tout reconnaître, c'est ça. Tout comme Michael. Michael, je t'en prie, avant de rejoindre le standard, on a Mourad qui nous appelle.
L'Algérie devait apporter une réponse après cette CAN complètement ratée. De son côté, le Cameroun qui a été sorti en demi-finale de sa compétition, devait aussi apporter quelque chose durant ce match qui opposait vraiment deux mastodontes. Et au final, moi, j'ai trouvé l'Algérie qui a globalement géré son match, globalement eu la main du début à la fin sur le match. Il y a eu ce but. De Slimani juste avant la mi-temps, vraiment j'ai envie de dire au meilleur des moments possible pour le 41e but en sélection de Slimani, donc en 85 sélections, donc ça commence à faire pas mal pour lui, qui comme je l'ai dit en préambule, je trouve que c'est vraiment un super joueur qui a une excellente mentalité, et je suis personnellement assez déçu de l'avoir vu quitter l'Olympique Lyonnais.
Ouais, mais en tout cas, il va mieux.
Il a été mal utilisé du côté de Lyon.
Peut-être ça, peut-être.
Moi, je l'ai adoré du côté de Monaco, juste avant de Lyon, du côté de Monaco.
J'ai vraiment
redécouvert ce joueur.
Ouais.
Parce que pour moi, c'était un bon buteur.
Savoir bien utiliser le joueur est primordial.
J'ai vraiment trouvé un joueur qui avait un QI foot largement au-dessus de la moyenne, qui savait faire jouer ses coéquipiers, et personnellement je suis très content ce soir pour lui qui marque dans ce match, et comme tu le disais, très grosse option pour l'Algérie qui apporte une très bonne réponse, et c'est là aussi on voit que les joueurs,
attention, il y a le retour,
c'est là aussi on voit que les joueurs sont vraiment derrière Jamel Belmadi après après cette désillusion. Voilà, vraiment une équipe soudée de l'Algérie sous ce nouveau système qui devient aujourd'hui
le sélectionneur algérien, il se fait respecter, le monsieur qui n'est autre que Jamel Belmadi, comme le suppose Mickaël, notre consultant, le 01 53 48 3000 si vous voulez réagir, tout comme Mourad qui nous appelle, allez, depuis la région parisienne. Bonsoir Mourad.
Bonsoir tous,
Mourad, comment ça va? Tu vas bien?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très très bien, Mourad. Alors justement, l'Algérie qui prend, voyez, ce petit billet pour le moment. Allez, ce gros billet avec le but à l'extérieur. On l'oublie parce qu'on est habitué en Europe de ne plus compter le but à l'extérieur.
But à l'extérieur sans encaisser de but. Allez,
c'est pas mal. Allez, saute, c'est un gros billet.
Et c'est pas mal.
Allez,
c'est un billet aller. On va dire que c'est un billet aller.
C'est un billet
après, il va falloir revenir.
Eh oui, Mourad, avec ses blagues. Non, justement, mais... Mourad, alors.
Non, je pense que c'est un tri... C'est l'anniversaire de Belmadi aujourd'hui. Donc, je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. C'est justement d'aller chercher cette victoire à l'extérieur. Même si l'Algérie a pris une option, il faut savoir que le Cameroun, grand pays de football, peut-être le pays de football le plus important sur le continent, est invaincu au Cameroun depuis 98. L'Algérie avait brisé son aux portes de son record d'invincibilité, avait été battue par la Guinée équatoriale. Donc là, les records sont faits pour être battus.
Mais hier, je t'interromps deux secondes aussi, c'est la première victoire de l'Algérie en match officiel contre le Cameroun. Donc ça aussi, ça compte.
Exactement.
Tu peux le mettre aussi, l'ajouter dans tes stats.
Ouais.
Non, exactement. Et après, les stats, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Mais
bien sûr.
La Guinée équatoriale a stoppé notre record d'invincibilité.
Ouais.
Là, on élimine, pour conjurer le sort, on gagne au Cameroun, qui est invaincu depuis 98 chez elle. Psychologiquement, ça fait du bien. Après, il y a un match retour à faire. Peut-être que l'Algérie va devoir se livrer un peu plus. Il y a Vincent Aboubakar qui est sorti à la mi-temps mystérieusement, comme le Jamison. Il faisait quand même très très mal. Même si Wemba était intéressant, et je le trouvais dangereux. Donc là, c'était un match d'hommes. C'était un match qu'il fallait gagner. Pour le jeu, il fallait repasser.
Pour être honnête.
C'était un match qu'il fallait gagner sur le terrain, dans les duels. Après, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mickaël. Super
bien
team.
Sûr.
Ça fait plaisir de le revoir.
Ouais. Merci, Mourad.
Il a été beaucoup décrié, que ce soit en club ou en sélection. Même si c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne, il avait à cœur justement de prouver et de marquer dans ces matchs-là un peu décisifs. On avait été quasiment muet lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'est une option. Un billet aller, plus, on va dire en première classe, avant de revenir. Enfin, même si on sera dans la soute.
Voilà,
il a sa métaphore. Ouais.
Toujours. Voilà, Mourad fait passer du bon temps aux auditeurs de Beurre FM, ça c'est sûr. Comme à son habitude.
En tout cas, merci.
Ouais, mais Mourad, justement, on va essayer de vous garder encore un petit moment. Concernant ce match, le fait surprenant aussi qui s'est déroulé lors de ce match aller des barrages, on le rappelle, un problème de projecteur qui a interrompu un peu la rencontre. Ça nous a fait un peu penser à cet Olympique de Marseille Milan AC de 1991, je crois.
Et on avait un petit peu peur. Savais que t'allais être nostalgique.
Ouais. Justement, nostalgique. Nostalgique parce que ce soir, l'équipe de France, faut pas l'oublier, joue du côté de l'Orange Vélodrome. J'en perds mon latin. Non, mais moi, plus sérieusement, on a un peu cette crainte, peut-être, avec cette élimination prématurée de l'Algérie. Il y a beaucoup de bookmakers, de personnes sur les réseaux sociaux qui comparent l'Algérie un peu à ce mental que l'on voit certaines fois chez les Parisiens, chez le Paris Saint-Germain.
C'est dur.
Ouais, c'est dur. Oui, mais il y en a beaucoup qui comparent. Il y a du niveau, il y a du haut niveau, mais des fois, c'est vrai. Hein, on le voit pas mal sur les lèvres de certaines personnes. Mais oui, la fierté. Mais c'est vrai que des fois, on a cette crainte. Mourad,
si vous connaissez un peu l'histoire d'Algérie, l'Algérie est condamnée à gagner dans la souffrance. Et concernant les émotions, c'est toujours les montagnes russes pour l'Algérie. On n'est jamais, c'est jamais linéaire avec l'Algérie.
Et le PSG, ça perd dans la souffrance.
Soit on est surpris positivement, soit on est surpris négativement. C'est ce qui s'est passé à la CAN 2019. On a été très agréablement surpris, et à la CAN 2021 où ça a été un fiasco. Donc voilà, c'est l'histoire de l'Algérie. Et c'est les montagnes russes, et c'est comme ça qu'on aime aussi la Coupe nationale.
C'est ça. Mourad, il aime bien les montagnes russes aussi, mis à part la première classe.
Et après, pour la coupure d'électricité, ça arrive dans tous les stades.
Bien sûr.
Il y en aura une.
Ouais.
Je pense pas que ce soit un coup bas. Je pense que
non.
Une facture d'électricité. Je pense même pas que ce soit une facture d'électricité impayée.
Non, quand même pas. Et on respecte de ce magnifique stade aussi.
Tout neuf, Jacoma.
Oui, bien sûr. Et le Cameroun. Et là, le terrain de football.
D'un point de vue condition, exactement, c'est un pays de football. Le terrain à Japoma était meilleur qu'à la CAN 2021.
Oui.
Ouais. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un effort qui a été fait vis-à-vis de la fédération camerounaise, mais. Mais voilà, c'est l'Afrique. Après, certains disent le folklore, etc. Moi, je suis pas trop fan de cette expression.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ça nous fait vibrer.
Voilà. Bien sûr. Ouais, ça, on a pu le constater, justement. Quel joueur vous a le plus marqué, peut-être, Mourad, et aussi l'équipe de Tamsoir, ouais, sur cette rencontre?
Ben, moi, c'est Islam Slimani, bien entendu.
Slimani. Ouais, Michael aussi.
Mais je pense, parce qu'il n'y a pas que l'Algérie, il n'y a pas que le Cameroun.
Ouais.
Il y a eu aussi Tunisie Mali. Moi, il y a un joueur.
Justement, on va en arriver aussi à. Au Mali, Tunisie.
Vous allez en arriver, peut-être que je vous fais une passe D.
Allez, vas-y, la passe D.
Et je pense à Sissaka, le défenseur, le défenseur malien, qui a marqué contre son camp.
Sissaka.
Moussa Sissaka, c'est vrai.
Dans quelle étape psychologique il doit être aujourd'hui?
Troisième, c'est un type parisien, me semble.
C'est vrai.
Où a été formé Moussa Sissaka?
À Paris.
Au PSG.
Au Paris Saint-Germain.
Voilà, c'est exactement.
Mais là, il y a de la pression, messieurs dames.
Parlez sous ton contrôle.
Oui, il y a de la pression, Michael.
Voilà, c'est une classique.
Et oui, et Samir aussi qui nous écoute ce soir, un petit clin d'œil à Samir, peut-être on l'aura sur l'antenne de Beurre FM, qui nous dit pauvre Moussa Sissako. Et oui, c'est
Moussa Sissako, exactement.
Ouais, c'est ça. Terrible. C'est ça l'histoire terrible. À ce niveau-là, c'est vrai. Terrible. Après on devient peut-être la cause des manqueries, de tout un peu. Non, j'espère pas en tout cas.
Ça arrive de passer à côté d'un match,
mais
là,
oui, bien sûr.
En fait, c'est les circonstances qui sont douloureuses. Troisième sélection, sans jeune joueur, ces barrages de la Coupe du monde, ces matchs à la maison, surtout
tu marques en club.
Exactement. Tu marques contre ton camp. Donc déjà tu mets une option avec cette histoire toujours du match à l'extérieur, du but pardon à l'extérieur. Donc tu mets une option défavorable à ton équipe. Puis ensuite quelques minutes plus tard tu te prends un carton rouge. C'est une soirée cauchemardesque. C'est pas le premier à vivre des soirées comme ça. Ça sera pas le dernier. C'est ce qui forge aussi un homme. C'est ce qui forge un footballeur. Malheureusement c'était pas sa soirée, mais ça arrive.
Je pense que pour lui, le dimanche à Bamako sera compliqué. Ce soir.
Mais non, Ah là là. Eh oui, c'est sympa le dimanche à Bamako. Eh oui, Amadou et Mariam, magnifique chanson. On pourrait pas la voir ça, Giovanni? Oui, allez, Amadou et Mariam.
Ah, si tu peux la mettre, c'est
bien sûr. Le dimanche à Bamako, c'est un classique. Eh oui.
C'est ce qu'il faudrait mettre pour endormir les Tunisiens.
Ah bah.
Non, mais c'est
ce rythme-là qu'il faut jouer à domicile.
C'est vrai.
Eh oui.
Je dis ça, je dis rien. J'aime beaucoup l'entraîneur du Mali, de la sélection nationale du Mali. Donc.
Eh oui. En tout cas, la Tunisie.
Si il nous entend, j'ai des petits tips.
Mais bien sûr, la Tunisie, on le rappelle aussi, il nous a fait une passe D. C'est Mourad. Un grand merci, Mourad.
Merci, Mourad.
D'avoir appelé Beurre FM, d'avoir été avec nous à la suite de cette victoire de l'équipe d'Algérie. Eh oui, voilà. Et on va le laisser, Mourad, filer. En écoutant ce dimanche à Bamako. Alors on va le laisser aller, 5 secondes, comme ça.
Merci beaucoup.
Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage.
Eh oui, le jour de mariage. Arrête, parce qu'après, ma mère va me demander c'est quand tu te maries. On va enchaîner justement sur la rencontre opposant le Mali à la Tunisie. C'est parti.
Auparavant, vous aviez passé 2 ans dans un bataillon disciplinaire en Tunisie.
Time Sport. Le duel.
Là aussi, un match assez fun quand même. Moi, c'est ce que j'ai analysé un peu les dires sur les différents réseaux sociaux et aussi, ça va, sur les petites retombées qu'on a pu avoir depuis la fin de cette rencontre-là. On le rappelle, malheureusement, Moussa Sissako, un but contre son camp à la 36e et aussi sorti sur 4 cartons rouges à la 40e. Bah, Alisson et Michael, cette rencontre avec les aigles de Carthage.
Comme a pu le dire Alisson et Mourad, c'est terrible pour Moussa Sissako, qui est un jeune joueur, qui a pas énormément d'expérience du très haut niveau. Et c'est sûr que là, il a clairement handicapé son équipe après cette double faute. Mais malgré ce, derrière, j'ai vu une équipe du Mali intéressante, qui a su mettre beaucoup de pression et d'intensité pour essayer de recoller au score. Et à contrario, j'ai vu des Tunisiens qui, bizarrement, après ce carton rouge, j'avais l'impression qu'ils n'avaient plus trop sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va laisser le ballon au Mali et on va essayer de contrer. Sauf qu'en fait, ils ont pas eu énormément de situations de contre. Ils n'ont pas eu non plus beaucoup le ballon.
Ouais.
Donc ils ont réussi quand même à garder ce score. Mais honnêtement, je suis assez pareil en fait. C'est comme pour tous les matchs qui se sont déroulés là. Je suis assez déçu de l'attitude un petit peu à reculons des équipes. Après ce coup dur sur la tête des Maliens, je pensais que les Tunisiens allaient vraiment mettre le bleu de chauffe et vraiment écraser cette équipe, essayer vraiment de se mettre à l'abri définitivement. Et en fait, au final, on a plus vu le Mali pousser avec une très grosse ambiance derrière, et c'est pas passé loin non plus, avec beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de fautes très bêtes de la part des Tunisiens. J'ai envie de dire, après ce match, après ce carton rouge, après cette situation, ce but contre son camp, en fait, les Tunisiens, ils s'en sortent bien. C'est assez fou de le dire comme ça.
C'est sûr, assez fort.
On a vu une équipe de Tunisie clairement faible, hein, appelons un chat un chat, mais chanceuse. C'est un braquage clairement à la tunisienne. Là, ils ont fait le gros coup, encore plus que l'Algérie, parce que l'Algérie a travaillé pour obtenir son résultat, mais à contrario, la Tunisie, c'est la chance. Honnêtement, là, c'est beaucoup de chance et c'est presque, voilà, on a su obtenir un résultat à l'extérieur. Prions pour qu'on conserve ce résultat et voyons ce qui se passe à la maison. Honnêtement, on n'a pas vu une belle équipe de Tunisie. On a vu une équipe de Tunisie un petit peu repliée, pas forcément qui était acharnée vers l'avant. Voilà, c'est la chance, mais la chance fait aussi partie du jeu. Et là, pour le coup, les Tunisiens ont eu de la chance et beaucoup de réussite.
Et puis on a eu deux coachs qui ont eu le coach malin qui a pas eu de chance, mais au moins qui a essayé de mettre la chance de son côté avec trois changements après le carton rouge et le but. Donc il a essayé vraiment de dynamiser son équipe. Et de l'autre côté, le coach tunisien, je l'ai senti plutôt fébrile, et son équipe représentait bien la mentalité de son coach, c'est-à-dire comme je le disais, il savait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut défendre, est-ce qu'il faut garder ce résultat, est-ce qu'il faut attaquer, alors qu'en fait, après ce qui s'est passé, tu te dis tu y vas, quoi, tu fonces.
Ouais, mais le Mali n'a pas baissé les bras aussi, et même aller de l'avant.
Mais moi je pense
c'est de dominer cette seconde période.
Moi je pense c'est surtout la Tunisie qui a laissé la porte ouverte au Mali. C'est-à-dire qu'ils ont tenté la démarche a été faite par le Mali de repartir de l'avant, mais en fait quand ils ont vu que les Tunisiens en face reculaient, ils se sont dit pourquoi pas, en fait pourquoi pas attaquer, on va avoir des situations, alors qu'en fait si la Tunisie avait défendu plus en avançant et avait montré plus d'intelligence dans son jeu, sans donner autant d'opportunités au Mali, je pense que ils auraient pu clairement éteindre le feu et gérer beaucoup plus sereinement ce match, fatiguer plus facilement les Maliens, parce que on se dit peut-être le coach il s'est dit on va laisser le ballon aux Maliens pour les fatiguer, mais en fait non, pas du tout. Tu les as juste en fait remobilisés, alors qu'en fait en jouant plus en avançant et en gérant un peu mieux les coups, ils auraient largement pu mieux gérer et vraiment fatiguer les Maliens et vraiment porter les stockades dans les 20-15 dernières minutes.
Sauf qu'on avait l'impression que physiquement la Tunisie n'était pas capable justement défendre autrement qu'en bloc bas et laisser passer l'orage, parce que c'est justement cette équipe du Mali a mis de l'impact, ça attaquait bien, ça attaquait vite, ça faisait des attaques placées. Donc on avait l'impression que physiquement, en tout cas du côté de la Tunisie, on n'était pas capable d'aller chercher ce deuxième but, et finalement qu'on conservait ce résultat de 1-0 qu'ils ont acquis par chance, quoi.
On le rappelle, il y a deux matchs qui ont débuté à 20h30, le Ghana face au Nigeria, deuxième minute de jeu, toujours 0 partout, et l'Égypte-Sénégal. Voilà, c'est le remake de cette finale, la dernière finale de la Coupe d'Afrique.
Il y a quand même de sacrés clients qui vont passer à la porte.
0-0, on va pas voir ces belles nations, le coach Etolé, Moura nous le disait, ou encore Kamel à qui nous pensons ce soir. Allez, si vous voulez réagir, vous pouvez nous contacter, appeler, composer le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Les Marocains, les Congolais, mon corps, les Maliens, les Tunisiens et les Camerounais, voire les Algériens, vous nous appelez et on pourra vous faire réagir sur cette antenne qui est la radio de la diversité, Beurre FM. La dernière pause et on revient rapidement.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de notre consultante Alison, Mickaël, et de la partie ce soir, en ce début de week-end, en transport, à la maison ou encore au travail. Et on pense à vous, la radio de la diversité, c'est Beurre FM.
On pense à ceux qui sont dans les transports actuellement avec les soucis de travail.
Oui, aussi. Il y a eu la grève aujourd'hui en région parisienne, c'est ça. Et ça a été un peu tristouné pour certains. Allez, on va s'attarder sur l'Italie. On y va.
Dans
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, justement, dove la vittoria della Pelgo della Chioma. Et c'est les chants italiens. Et oui, justement, Fratelli d'Italia, qu'on n'entendra pas justement au prochain mondial 2022. Et oui, malheureusement. Et en plus, on aime cette hymne, notamment Giovanni ou encore Michael, quand par exemple la Scuderia Ferrari remporte un grand prix, ou même quand il y a un match de cette sélection italienne. Que s'est-il passé? On n'a rien compris. Depuis hier, c'est vrai que pas mal de gens se sont lâchés aussi sur les réseaux sociaux. Les Lions Rouges ont créé cet espoir en battant l'Italie grâce à un but de Trzaskowski dans les arrêts de jeu. Faut le rappeler. Et oui, ça l'a fait Alisson. Malheureusement, les Italiens n'y auront pas.
Bah malheureusement, c'est l'histoire qui se répète pour l'Italie. Hein.
Oui, malheureusement, c'est ça.
C'est une aberration ce qui s'est passé hier. Franchement, c'est David contre Goliath.
C'est fou quand même.
C'est dingue. L'Italie à domicile du côté de Palerme. Qui a surdominé le match comme on pouvait s'y attendre.
Oui.
Et avec des Macédoniens qui ont su aussi rester en bloc, qui ont défendu leur peau comme ils pouvaient. Hein. Ça reste une toute petite nation. Et de l'autre côté, une Italie qui manque énormément de réalisme. On en avait déjà parlé ici, Bilal, pendant l'Euro.
Ouais,
donc
on en avait parlé.
Ils ont gagné l'Euro parce qu'ils ont réussi à mettre en place, Mancini a réussi à mettre en place une vraie dynamique dans cette équipe. On le disait, il n'y a pas vraiment de stars. Mais le problème, c'est que quand cette dynamique s'enraye un petit peu, souvent, tu as besoin d'un joueur qui va te faire la différence, qui va te mettre le ballon au fond. Et là, aujourd'hui, il y a un joueur qui cartonne tout depuis des années en Serie A du côté de la Lazio et qui met pas un pied devant l'autre en Italie, c'est Ciro Immobile. Qui, encore une fois, pêche pendant un gros match. Et,
ouais.
Le scénario terrible pour les Italiens, c'est ce but de Trzaskowski, qui est un ancien joueur de Palerme en plus, donc dans son ancien jardin, qui met cette frappe lointaine, qui ne doit pas rentrer. Là-dessus, je suis assez d'accord avec les critiques qui s'abattent un petit peu sur Donnarumma. C'est dur pour lui parce que c'est un peu la tête de turc de la presse italienne depuis qu'il est parti du Milan AC comme un voleur selon. Sont les gazettes italiennes.
Oh, c'est pas faux quand même.
Mais oui. Après c'est des choix comme Mbappé partira certainement, voilà. Mais voilà, c'est un peu leur tête de turc et il se prend ce but, cette frappe lointaine à la 90e minute de jeu et l'Italie qu'on n'a pas vu en 2018, qu'on verra pas en 2022, qu'on n'a pas vu sortir de la phase de poule en 2010, qu'on n'a pas vu sortir de la phase de poule en 2014.
C'est
donc c'est à se demander
s'il n'y a pas une malédiction,
voilà,
Zidane.
Mais
allez, c'est du n'importe quoi ça, il y a même Mourad qui nous le disait en plus hier. Non,
en tout cas, sur le papier
de 2006.
Sur le papier depuis 2006, c'est quand même très pauvre et c'est un euphémisme de dire ça. Et je ne sais même pas si on arrive encore à se rendre compte de se dire que l'Italie n'a pas été là en 2018 et l'Italie ne sera pas là en 2022 pour un pays dont le football est d'une importance cruciale et a été d'une importance cruciale, notamment d'un niveau, au niveau sociétal. C'est vraiment quelque chose qui est, pour les Italiens, c'est... Déjà une fois c'était de trop et c'était quelque chose qui a été très très mal vécu.
Ouais.
Mais là faire ça deuxième fois en demi-finale des barrages contre la Macédoine du Nord à domicile.
Ouais.
Alors
justement.
Et ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est qu'on
Alisson, avec les Italiens.
Comment l'Italie a dominé la tête et de la tête et des épaules cet Euro. C'était quand même l'équipe la plus conquérante. C'était quand même la plus belle équipe de ce dernier Euro. C'était l'équipe qui a fourni le plus beau jeu. Donc voilà, on se disait peut-être qu'on avait un retour de l'Italie avec toujours ces mêmes bases du Catenaccio, mais pour le coup avec des joueurs comme Immobile qui ont brillé, ça marque un petit peu plus de buts et ça développait un petit peu plus le jeu à l'instar de Marco Verratti. Donc on s'est dit on a peut-être atteint ce nouvel équilibre de l'Italie avec Mancini, tout en gardant ses bases de défensive solide. Et là patatras, ça s'écroule. Donc là ça n'y a rien comprendre.
Mais surtout qu'ils doivent jamais se mettre dans cette situation dans leur phase de groupe. Ils gagnent leurs trois premiers matchs. Donc on se dit ils sont lancés ils sont lancés sur de bons rails. Et derrière sur les cinq matchs qui suivent, ils font quatre matchs nuls. Ils font deux matchs nuls contre la Suisse, dans les, ces deux matchs-là, donc le 0-0, le 1 partout, il y a Jorginho qui rate à chaque fois un penalty, donc le deuxième 1 partout, il rate le penalty à la dernière dernière minute de jeu. Derrière, il y a aussi un match nul en Bulgarie, et derrière le match nul en Suisse, c'est un match nul en Irlande du Nord. Donc en fait, tu dis que c'est limite, enfin ils avaient toutes les cartes en main pour ne pas passer par par le barrage. Après, c'est aussi voilà, c'est comme pour le Portugal qui perd le dernier match contre la Serbie.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que faire autant de faux pas en phase de poule, faire autant de matchs nuls et être autant inefficace, parce qu'aller faire match nul 0-0 en Irlande du Nord, un 0-0 en Bulgarie et un 0-0 en Suisse, c'est que derrière il y a pas
il y a un problème
voilà. Et en fait il manque, comme je le disais, à l'Euro, Mancini il a fédéré autour de lui, il a mis une équipe en place qui a très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le 11 italien, notamment au niveau offensif,
ça manque
clairement de poids.
Allez, on va s'attarder au dernier sujet de cette émission, qui n'est autre que la sélection de cette équipe de France, des hommes de Didier Deschamps, qui rencontreront la Côte d'Ivoire dans l'antre marseillaise qui est le Stade Vélodrome, l'Orange Vélodrome. On y va.
Time Sport.
Eh oui, on le rappelait, Alisson. Et c'est Didier Deschamps qui ne ferme pas peut-être cette porte à un retour de Payet. Eh oui, dans cette équipe de France, à l'approche du Mondial en novembre 2022 au Qatar. Alisson, on t'écoute.
Oui, il reviendra.
France-Côte d'Ivoire.
Oui, Payet reviendra peut-être. Il reviendra sur le banc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Et surtout, on aura le droit ce soir à la titularisation d'Olivier Giroud, qui l'eut cru après cette Ligue des Nations, après le retour de Karim Benzema. On l'avait un petit peu mis aux oubliettes, Olivier Giroud, et patatras, là, Karim Benzema se blesse, et qui voilà, Olivier Giroud, voilà. Le football, ça va vite. Le football est parfois bizarre, mais en tout cas.
Injuste pour certains.
Mais bon. Après là, ça reste des matchs amicaux et on touche du bois pour que j'aime beaucoup Olivier Giroud, hein, mais on touche du bois quand même pour que ce soit pas le scénario à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Mais dans tout ça, malheureusement, je me dis que Ben Yedder, il passe un petit peu à la trappe et qu'on compte pas vraiment sur lui. Mais on aura le droit ce soir apparemment à la titularisation de Christopher Nkunku, et moi c'est ce qui me satisfait le plus dans tout ça, au-delà du fait que ce soit mon homonyme. C'est un joueur qui depuis 2 ans met doublé sur triplé sur doublé à Leipzig, qui fait des gros matchs, qui
fait ses matchs. C'est 26
buts cette saison, Nkunku.
Pardon,
26 buts cette saison.
Exactement, toute confiance.
Le gars est là.
Et bien sûr qu'il est là.
C'est incroyable, non, vraiment.
Il porte les Leipzig. C'est un attaquant un petit peu moderne. C'est un attaquant 10, un petit peu milieu de terrain, qui aime bien décrocher, qui aime bien toucher la balle. C'est un attaquant formé au Paris Saint-Germain, faut le préciser. Donc encore une fois, les titis parisiens réussissent, mais en dehors de Paris, explosent du moins, mais en dehors de Paris, aussi à l'instar de Kingsley Coman. Voilà, c'est la grosse satisfaction, et on verra aussi un Pogba. On ne verra pas malheureusement Kanté, mais voilà, on attend aussi énormément d'un Pogba qui fait une saison un petit peu en dents de scie avec United, et voilà, on verra aussi ce que ça va donner en défense. Et puis je pense que physiquement, la Côte d'Ivoire, c'est une belle opposition.
Bien sûr, Mickaël. Allez, on a toujours Mourad avec nous, qui aimerait parler aussi de l'équipe de France. On t'écoute.
Tu disais parfois le football est cruel pour certains joueurs.
C'est vrai.
Et moi, j'ai un peu de mal à comprendre la gestion en fait du cas Giroud. Donc, c'est-à-dire que de base, il fait pas partie des plans. Tu as Karim Benzema qui est blessé, donc il rappelle Giroud. Donc, moi là-dessus, j'ai pas forcément de problème. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est au niveau de la hiérarchie. C'est-à-dire que t'as un joueur qui performe depuis des semaines et des semaines et des mois, qui est en équipe de France, qui s'appelle Wissam Ben Yedder. Ouais. Et en fait, tu fais revenir Giroud, qui était pas prévu dans le lot. Et en fait, tu laisses Ben Yedder sur le banc.
C'est qu'on compte pas.
Et en fait, le message envoyé, je trouve pas bon, en fait, pour Ben Yedder. Et j'ai un peu de mal à jauger le statut d'Olivier Giroud dans cette équipe.
Ouais.
Parce que, il jouait.
Toi aussi.
Non, j'ai pas du mal à José son statut, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Giroud, ça reste un joueur très performant.
Je suis 100% d'accord avec toi, Alisson. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu t'en passes depuis l'Euro. Déjà, il était sélectionné quand il jouait plus, quand il jouait pas, qu'il marquait pas.
Ouais, mais
là, il joue au Milan, il marque, il est performant, il était pas rappelé.
Oui, parce qu'il rentrait pas dans les plans de Didier Deschamps.
Oui, mais dans ce cas-là, moi, ça me pose un problème au niveau de la hiérarchie. Ouais. C'est-à-dire que de base, si tu fais une hiérarchie, tu mets Benzema, tu mets Mbappé, tu mets Ben Yedder et tu mets Giroud en 4. Dans ce cas-là, tu prends de base, tu prends pas Ben Yedder ou alors tu le prends. Ouais, dans ce cas-là, tu prends Giroud de base.
Ouais, reste à
voir. C'est juste ça, je comprends pas en fait. C'est-à-dire qu'il le prend, il le fait sauter directement au-dessus de Ben Yedder. Ouais. Après, on le sait, Ben Yedder, il l'a jamais vraiment fait jouer en équipe de France. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un joueur qui aujourd'hui a 29 ans. Est dans la on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, c'est un super joueur, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Depuis des années, il marque minimum 15 buts par saison et on lui donne jamais sa chance en équipe de France.
C'est vrai. Mourad peut-être va nous donner son ressenti concernant cette équipe de France qui rencontrera, on le rappelle, chère auditrice et auditeur de Beurre FM ce soir 21h15 du côté de Marseille, la Côte d'Ivoire en match amical. Mourad, alors justement, on l'écoute.
Oui, bien. Et
avec cette équipe de France.
Encore toi.
Oh, bonsoir, Mourad. On l'a gardé avec nous.
Mourad, t'allais venir en plateau alors.
Eh oui, Mourad, il est toujours là.
Je suis désolé. En fait, je voulais jouer un peu les troubles faits ce soir.
Ouais.
En fait, c'est juste un petit coup de gueule, en fait, Bilal.
Bien sûr.
Je voulais un peu équilibrer le débat.
Alors.
Pendant que tout est fait pour que les petites nations européennes, avec tout le respect que j'ai pour la Macédoine du Nord, se qualifient en Coupe du Monde, on a les plus grosses nations africaines qui se tapent pour 5 places.
Bien sûr.
Donc, Paris, moi, je voulais dire à vous Douala, à vous Le Caire, à vous Bamako, et tous les matchs de barrage là qui nous fendent le cœur, puisqu'on voit des équipes qui font la pluie et le beau temps des championnats européens, qui sont en train de se taper dessus pour 5 places en Coupe du Monde. Donc voilà, c'était un petit coup de tête. On a le droit de couvrir l'équipe de France, d'ailleurs, les bons joueurs.
Mais bien sûr.
Qui pour moi est sorti trop prématurément.
Oui.
Participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Donc on salue aussi les Ivoiriens qui nous écoutent. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule.
Oui, Mourad.
Juste pour équilibrer le débat par rapport au football africain.
Faut pas l'oublier.
Je suis d'accord avec Mickaël, Ben Yedder, si on le prend, c'est pas pour faire le nombre.
C'est clair.
Et quand t'es numéro 3 et que le numéro 1 se blesse, c'est le numéro 2 qui prend sa place. Et le numéro 3 grimpe dans la hiérarchie. Donc je ne comprends pas ce changement de statut comme ça au fur et à mesure ou en fonction des têtes de chacun. Principalement le football africain.
Alors.
Je voulais en parler beaucoup ce soir.
Bien sûr.
Enfin, je voulais trouver le fait.
Non. Il fait bien, Mourad.
C'est ce qu'on disait à la. Bon, on n'a pas été aussi loin que toi, mais t'as eu raison justement de mettre la lumière là-dessus.
Bien sûr.
C'est ce qu'on disait à la fin du débat quand on parlait des matchs qui avaient lieu aujourd'hui et ce soir. Que c'est de grosses équipes qui vont passer à la trappe, mais c'est dommage.
Mais justement,
ça va changer pour la prochaine Coupe du Monde. Il y aura au lieu de 5 équipes, il y aura 9 équipes. Enfin. Alors. Voilà. Ouais. Pour un aussi gros continent que l'Afrique, 9 équipes, c'est déjà juste.
On revient sur l'Afrique rapidement. Ouais. Ghana, Nigeria, toujours 0 partout. Et l'Égypte qui a ouvert la marque face au Sénégal, 1-0. Salut, si c'est contre son camp, malheureusement, dès la 5e minute. Oui, Alisson, l'équipe de France, et avant de donner aussi des pronos. Allez, on va essayer d'avoir le pronos de Mourad.
Je suis entièrement d'accord avec Mickaël et Mourad pour le cas Ben Yedder. Je pense que notre hiérarchie et ce qu'on en fait n'est pas la même que celle de Didier Deschamps. Je pense que dans la tête de Didier Deschamps et dans les plans de Didier Deschamps, Olivier Giroud passera tout le temps avant Wissam Ben Yedder.
Il ne sélectionne pas de base,
malheureusement.
Alors, je comprends pas la gestion. Pourquoi il ne sélectionne pas de base?
Parce que Karim Benzema était là.
Je vois pas pourquoi il pourrait pas avoir Benzema et Giroud.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense
que c'est un profil dont tu as besoin, je pense.
Ouais. C'est ça.
Didier Deschamps, c'est pas un joueur. Ben Yedder fait le nombre. Et c'est un profil de type trouble fait qui vient jouer les 20 dernières minutes.
Oui, mais moi, je comprends pas, en fait, la gestion. Je comprends pas la gestion de Deschamps avec Giroud, en fait, depuis l'Euro. Bon, certes, il y a eu ces tensions avec Mbappé. Mais à partir de là, enfin, je veux dire, c'est pas parce que forcément il y a des tensions que les mecs derrière ne peuvent plus se voir en peinture et qu'il peut pas y avoir une explication. Après, on n'est pas dans les secrets des dieux, etc. Mais je veux dire, Giroud ne jouait pas avec Chelsea.
Il a cédé à la pression gauchiste de la France, tout simplement.
Ouais. période d'élection présidentielle, Mourad.
Le truc qui est fou, c'est qu'il jouait pas avec Chelsea. Il était titulaire en équipe de France et il est performant. Et de toute façon, ça, Giroud en équipe de France. Et même de manière générale, je trouve un joueur qui est respectable dans ce qu'il a pu faire dans sa carrière et même grandement respectable. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il joue pas avec Chelsea, il est sélectionné. Il joue avec le Milan AC où il fait de bonnes prestations, où il marque notamment sa grosse prestation lors du derby entre l'Inter et Milan, où il a un superbe. Donc en tout cas, il est performant que Milan, il le tient.
Didier Deschamps ne voulait pas se tromper dans ces problèmes-là, justement, de Giroud. Alors, créer des crises, ça allait être problème.
Ouais, mais voilà.
Et donc le plan était de ne pas sélectionner Olivier Giroud, et je pense que Moral a très bien résumé. Giroud, c'est un profil, Ben Yedder, c'est un nom.
Si je peux me permettre, tu vois ce qui me fait chier.
On termine avec rapidement.
Ça, c'est qu'en fait, c'est comme depuis des années, en fait, ça donne du poids à l'opposition qui est tout le temps faite entre Giroud et Benzema. Ouais. C'est-à-dire que depuis des années, quand Benzema n'était pas en équipe de France, c'est à cause de Giroud. Donc tout le monde était sur Giroud. Maintenant, Benzema il est sélectionné, on reprend pas Giroud.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est
on voit bien.
Cette opposition toujours, qui est toujours présente.
On a plus trop le temps. Mickaël, on a plus trop le temps. Allez, le pronostic de ce soir, France Côte d'Ivoire, pour toi, Mickaël.
1-0 pour la France.
1-0 pour la France. Mourad, on l'écoute.
2-0 pour la Côte d'Ivoire avec un doublé de Serge Aurier.
Ah ben pourquoi pas. Pourquoi pas, Mourad. Voilà, mais pourquoi pas. Et Alisson
3-1 pour l'équipe de France.
3-1 pour l'équipe de France. Alisson, on a des dédicaces. Allez, on a ben justement Nassira qui nous dit 2-1. On a Yacine qui nous dit 1-1. Voilà, ce soir, du côté de Marseille. On a aussi Anna qui dit justement, Alisson, très percutante et pertinente sur ses propos. Ça fait du bien d'avoir des femmes à l'antenne. Justement sur Talk Show. Voilà,
merci,
nous
Anna.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Vous écoutez à 22h Vanessa avec son réalisateur Giovanni. Bye bye.
Gens ici, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, la défaite de Diane Bienfou.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.